Je ne sais pas si vous avez déjà acheté des fringues sur Vinted, si vous avez une voiture électrique, si vous avez réduit votre consommation de viande, si vous prenez des cabas plutôt que des sacs en plastique. C'est tous ces petits gestes éco-responsables qui nous donnent l'impression d'aller dans le bon sens. Et puis, aujourd'hui, je reçois Fanny Parézé, qui est une chercheuse, une anthropologue, et qui vient comme un poil à gratter. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Les enfants gâtés », qui est une anthropologie du capitalisme responsable. Et dans cet épisode, elle va nous expliquer comment, à travers des croyances, on passe la consommation éco-responsable comme un alibi pour ne rien changer. C'est intéressant, elle parle des nouveaux sauvages, dont moi je fais totalement partie, elle aussi d'ailleurs, et elle nous met un miroir devant le visage pour nous montrer comment on change pour surtout ne rien changer. C'est un regard qui est hyper intéressant parce qu'on a toujours un peu de mal à prendre du recul sur soi-même, et en même temps qui, je vous le dis un petit peu, fait grincer, parce que évidemment c'est... En tout cas, en ce qui me concerne, nos actes, nos us et coutumes au quotidien aujourd'hui. Je vous laisse écouter l'épisode qui, je suis sûr, va vous intéresser. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Comment vas-tu aujourd'hui?
Je vais très bien.
Eh bien, c'est une bonne nouvelle. On va faire grincer aujourd'hui, je pense, un tout petit peu.
On va rigoler peut-être aussi.
On va peut-être un peu rigoler, on risque de faire grincer, mais on va voir. On parle beaucoup d'écologie, de plus en plus, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On parle même parfois de la crise du vivant. On a même vu France Inter faire un papier, enfin pas un papier, mais je sais pas comment appeler ça, mais en tout cas... Ils ont dit qu'ils allaient parler beaucoup plus d'écologie, de toutes les problématiques, etc., que c'était un engagement qu'ils prenaient, donc il y a vraiment des choses qui bougent. C'est quoi, toi, ton image de la France aujourd'hui par rapport à la crise? Alors, moi, je préfère parler de la crise du vivant que de la crise écologique, parce que je trouve que la crise écologique, c'est trop réducteur, parce que ça voudrait dire qu'on doit juste résoudre la problématique du CO2, ce qui n'est effectivement pas le cas. C'est quoi ton image de la France aujourd'hui par rapport à cette problématique?
C'est l'image d'une France qui est un petit peu affolée entre éco-anxiété et une réalité qu'elle se prend en pleine face, mais qui n'est pas forcément nouvelle pour autant, parce que ça fait des décennies qu'on parle de cette fameuse crise du vivant et des répercussions de nos modes de vie, de nos sociétés thermo-industrielles sur le vivant, sur nous, sur la planète. Donc une bonne claque qui commence à déstabiliser et à faire paniquer, à la fois à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective. Mais comme je suis un petit peu une emmerdeuse, même si c'est très bien, moi je dis attention, parce que si tout le monde en parle, si tout le monde a le même discours et que ça fait consensus, est-ce que ça pousse vraiment à l'action et au changement, ou alors à l'inverse, est-ce que ça maintient dans un statu quo un collectif qui se gargarise de leur nouvelle manière de faire, des petits gestes autant nécessaires qu'insuffisants par rapport à cette fameuse transition socio-environnementale?
Effectivement, on va parler de petits gestes. Il y a plusieurs figures, on va dire, françaises de l'écologie qui disent bien que la problématique, c'est pas tant les petits, c'est super de les faire, mais en réalité, le problème, il est systémique. Donc, en fait, c'est plutôt une problématique au niveau des modes de vie, plutôt une problématique au niveau des entreprises, des produits qu'on achète et de tout ce qui est associé au final. Enfin, vraiment, c'est nos modes de vie qui sont problématiques. Toi, tu parles de capitalisme responsable. C'est quoi le capitalisme responsable?
Le capitalisme responsable, c'est une idéologie qui vise à faire rimer profitabilité économique et transition socio-éco-environnementale. Autrement dit, comment, via une approche réformiste de nos modèles de société, nos institutions, on arriverait à passer le cap de cette crise sociale, écologique et environnementale. Et le capitalisme responsable, tel que je l'entends dans mes recherches, vise à transformer l'existant pour donner l'illusion du changement, mais en réalité, rien ne change vraiment. Je m'explique, c'est qu'à l'échelle des individus et de manière sincère, effectivement, ils ont mis en place plein de petits changements dans leur vie quotidienne qui sont éminemment structurantes pour eux, et qui, la plupart du temps, se sont fait quand même face à des renoncements, et c'est pas évident de changer. Et ça, on peut pas le renier, c'est un fait. Par contre, si on se décentre un petit peu, qu'on dézoome, et qu'on se détache de l'individu, de ses émotions, et du discours qu'il va avoir sur ses pratiques, et ben on se rend compte qu'on a eu des déplacements qui assurent toujours la désirabilité de nos modes de vie, des offres, des services ou des expériences qui vont être proposées dans notre société. Donc, on a l'impression de changer, et à l'échelle d'une personne, c'est vrai, on change, mais par contre, à l'échelle des groupes, ou d'une société, les changements sont beaucoup plus relatifs. Et en plus, tout ça s'inscrit dans le phénomène de l'effet rebond qui vise à un découplage entre croissance économique et effet sur la planète. Donc effectivement, aujourd'hui, on va avoir une limitation des effets néfastes sur la planète par rapport à nos modes de vie. Mais comme on consomme plus, eh ben, c'est un petit peu questionnable parce qu'il y a un phénomène socio-anthropologique autour de ça, c'est quand on a l'impression de consommer bien ou d'avoir un mode de vie qui est vertueux, et bien paradoxalement, on consomme plus.
Alors, on va prendre des exemples pour que ça soit encore un peu plus clair. Tu parles de Vinted, entre autres, donc du marché d'occasion pour les fringues. Est-ce que c'est à ça que tu fais référence? Est-ce que tu as d'autres idées en tête?
Alors, Vinted, c'est un très bon exemple parce que c'est un exemple qui va être connu par énormément d'individus et qui marque bien le changement de mentalité anti-capitalisme responsable. Vinted, c'est quoi? C'est la valorisation des objets de seconde main comme quelque chose qui va être de bon ton dans la société de consommation dans laquelle on se situe. Les vêtements et le marché de l'occasion a toujours existé, mais était l'apanage d'une catégorie de population très spécifique, soit alternative, soit sous contrainte de budget fort. Aujourd'hui, avec cette démocratisation du marché de la seconde main, de manière très spontanée et à très court terme, on se dit que c'est super cool et que c'est un progrès social parce que on valorise des vêtements qui ont été très peu portés, etc. Par contre, dans les faits, on se rend compte que Vinted peut pousser à une nouvelle forme d'hyperconsommation, dans la mesure où le fait d'acheter moins cher ou même de vendre pour quelques euros ses vêtements permet d'économiser une somme et de racheter parfois plus de vêtements. Et même, ça amène à une notion anthropologique que je développe dans mon bouquin qui s'appelle le crédit moral, c'est qu'une bonne action permet de justifier d'autres actions peut-être un petit peu moins vertueuses pour la planète. Donc si on achète sur Vinted, on va se dire, ok, c'est cool, on peut aller chez Zara ou acheter sur Shein parce que quand même, on a fait notre part.
On peut prendre l'avion. Pour rentrer dans le détail, parce qu'en fait c'est intéressant ce point sur Vinted, c'est-à-dire que bien sûr quand tu achètes sur Vinted, tu achètes des produits qui existent déjà, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de production dédiée, et en fait on sait bien que le coton, un t-shirt, un jean, etc., ça consomme énormément d'eau, enfin bref, tout ce que ça implique aussi, si on élargit encore un peu plus qui font ces t-shirts, et on arrive en Chine et on arrive aux Ouïghours et
exactement,
on arrive à des trucs assez horribles, ouais. Donc c'est plutôt bien de prendre des produits qui sont de seconde main, enfin là il n'y a aucun,
on est d'accord,
il n'y a aucune, aucun débat à avoir là-dessus. Alors moi, j'ai un truc, j'ai vu la patronne d'Emmaüs qui s'est plaint du développement de Vinted. C'est intéressant parce qu'elle, ce qu'elle dit, c'est ça pose un problème parce que du coup, nous, on n'a plus du tout d'habits pour les gens qui sont sous contrainte.
On sort du circuit de l'économie de la débrouillardise.
C'est ça.
Plein de vêtements qui n'auraient jamais dû se retrouver sur ce type de plateforme. Et en plus, les populations qui vont sur Vinted ou les populations qui vont chez Emmaüs n'y vont ni, comme je le disais, pour les mêmes raisons, ni vont avoir les mêmes attentes en termes d'offres qui est disponible. Donc on a vraiment une marchandisation de la solidarité autour du marché de la seconde main qui rend toujours un petit peu plus désirable le marché de la mode, mais en donnant une apparence un petit peu différente et en donnant surtout bonne conscience aux consommateurs.
Alors, mais du coup, je voulais juste creuser un chouïa.
Ouais, pardon.
Non, c'est moi, mais parce que c'était un point intéressant, c'est moi qui ai fait la référence à Emmaüs, donc voilà. Qu'est-ce que tu critiques là-dedans? C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que ce que tu critiques, c'est que finalement, quand on consomme Vinted, on justifie qu'on peut du coup consommer, être dans une, c'est pas de la fast fashion, mais du coup, d'être dans une hyper consommation de fringues, de changer de manière régulière, etc. Que finalement, on ne change pas les codes profonds. Qu'en fait, on reste en surface, c'est ça que tu dis, en fait?
Oui, en fait, ce que je pointe du doigt, parce que je suis pas là pour dire si c'est bien ou si c'est mal, mais par contre, c'est l'écart entre les pratiques et les représentations que les individus ou une société vont avoir, de la consommation. Le capitalisme responsable prône la consommation éco-responsable qui équivaut à consommer moins pour se sentir mieux. Par rapport à toutes les enquêtes anthropologiques que j'ai pu mener, on se rend compte qu'on consomme certes différemment, mais qu'il est rarement question de consommer moins. Et l'enjeu des enfants gâtés, c'est de faire réfléchir justement sur les bonnes actions et les bonnes pratiques qui peuplent notre quotidien, qui, si on prend un petit peu de hauteur, qu'on se décentre et qu'on s'interroge sur les bénéfices réels de nos pratiques, eh ben, c'est peut-être pas si différent que ça. Et ce qui est éminemment positif actuellement, c'est qu'on a de plus en plus d'individus qui veulent s'engager dans une dynamique de changement et aller sur Vinted, c'est un changement. Mais si le changement conduit à la permanence de l'hyperconsommation et rend toujours plus désirable le fait d'accumuler ou d'acquérir un certain nombre d'objets, eh ben, c'est pas forcément tip-top.
Il y a ça, et je sais plus si je l'ai lu dans un article où tu étais cité ou si je l'ai lu par ailleurs, il y avait cette histoire aussi de CO2 propre versus CO2 sale. Alors, je sais pas si
c'est pas moi.
C'était pas toi. Alors du coup, je vais t'expliquer le truc qui était des bobos, on y reviendra. Non, je fais partie, hein, donc je suis pas du tout en train de critiquer.
T'inquiète pas, moi non plus. Hein, c'est dans l'intro et dans la conclusion du bouquin, je suis décomplexée par rapport à ça.
Donc, font des retraites de yoga et qui du coup prennent l'avion, etc. Mais qui effectivement consomment Vinted, consomment bio, vont à Biocop et compagnie, et qui regardent d'un œil un peu lourd tous les gens qui roulent en 4x4 mais qui eux ne prennent pas l'avion. Et en fait, on sait bien que plus tu gagnes d'argent, plus tu pollues, hein, y a pas de secret. Et finalement, c'est intéressant de voir que c'est comme s'il y avait un CO2 propre et un CO2 sale. Ça, c'est un peu je sais pas si t'as vu donc Aurélien Barraud qui parlait au MEDEF et qui disait Elon Musk a réussi à convaincre des gens qu'une voiture de 2 tonnes 6 électrique pouvait être écologique. Et ça rentre un petit peu dans ce sens-là, c'est-à-dire en fait, j'ai une voiture écologique puisqu'elle est électrique, alors qu'en fait, à la limite, enfin dans ce cas-là, vaut mieux avoir une voiture à essence en l'occurrence.
Alors,
une petite voiture à essence, pas lourde.
Il y a plein d'éléments et de pièces de réflexion qui me viennent à l'esprit par rapport à ton exemple. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, avec l'éco-responsabilité et le capitalisme responsable, en fait, c'est une invention sociétale qui est en phase de devenir une innovation. C'est-à-dire que l'innovation, c'est un processus non linéaire qui suit 3 étapes. L'invention, qu'elle soit technologique, de procédé, sociétale, marketing. Le processus de diffusion, donc comment ça s'intègre, ça fait son petit bonhomme de chemin dans la société. Et la phase de réception, quand elle trouve sa place et qu'elle fait du sens et qu'elle s'institutionnalise. Aujourd'hui, l'éco-responsabilité est en phase d'institutionnalisation. C'est de bon ton d'avoir des préoccupations éco-responsables et ça amène un nouveau cadre. Et ce nouveau cadre juge ce qui est bien ou ce qui est mal, ce qui est de bon ton de consommer et ce qu'il est de mauvais ton de consommer. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'aujourd'hui, cette éco-responsabilité qui est une nouvelle phase hein, d'hyper-consommation qui se veut plus responsable, va créer une image autour du juste, du bien, et va moraliser en quelque sorte la consommation. Et c'est là où c'est un petit peu dangereux et faux se poser des questions, parce que entre l'image que vont renvoyer certains objets ou certaines pratiques qui vont être idéalisées autour de styles de vie et la réalité de l'impact de ces mêmes technologies ou de ces mêmes styles de vie, eh ben, on a souvent un gap qui est hyper important. Et je voulais revenir sur un autre élément que j'ai oublié. Oui, et c'est qu'aujourd'hui, dernier point, l'éco-responsabilité est quand même dans une logique de marchandisation avec une éco-responsabilité un petit peu à la carte. Et en fonction de qui on est, de comment on vit, de nos motivations, des causes que l'on a envie de défendre, soit d'ordre sociétal ou d'ordre écologique, en fait, on va focaliser notre attention sur un élément, que ce soit la psychospiritualité, l'engagement sociétal, le respect de la condition animale et vivante, les conditions de production des biens, services, expériences qu'on va consommer, etc. Donc, en fonction de où on se positionne, de la manière que l'on a de déconstruire la réalité, eh ben, on va avoir une perception de ce qui est responsable ou de ce qui ne l'est pas, qui va être différente. Et tout ça va être construit autour d'un imaginaire collectif. On va avoir des stéréotypes qui vont porter que faire du yoga, c'est beaucoup plus responsable que d'être pro-Elon Musk, en gros.
Et tu critiques à un moment donné la Biocop et les nouveaux circuits d'approvisionnement parce que, pour toi, il n'y a pas vraiment d'effort qui est fait. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu dis, et je trouve ça assez juste, hein, pour être complètement là-dedans, je le vois très bien, que En fait, les gens font des efforts, mais qui ne leur coûtent pas grand-chose au final. En fait, je trouve ça intéressant parce que moi, j'ai écrit un bouquin où je dis que justement, on peut changer sans faire d'efforts à partir du moment où tu changes ton rapport au monde. Et toi, ça va un peu dans les deux sens de ce que tu dis, hein, mais je trouve ça intéressant que tu dises finalement, est-ce qu'il faut souffrir nécessairement pour aller dans le bon sens? Est-ce qu'il faut se priver pour aller dans le bon sens?
Alors j'y passe, hein. Je dis qu'à chaque fois qu'on a des changements de société, notamment qui sont liés à des changements énergétiques ou à des changements de mode de production ou de modèle de société, ça bouleverse et ça modifie en profondeur les routines quotidiennes et l'organisation d'une société. Et là, peut-être que ça va être une prouesse et que je suis mauvaise langue et que c'est un petit peu le poil à gratter de l'anthropologue. Du moment où on nous demande une transition, un bouleversement et une révolution anthropologique au prix du moindre effort et surtout par la consommation, c'est peut-être qu'il y a anguille sous roche et que si c'est trop facile, c'est que ce changement, il n'est peut-être pas si radical ou à la hauteur des enjeux de notre époque.
Il va dans le bon sens, mais il n'est pas assez fort, en fait, c'est ça l'idée.
Exactement. En fait, c'est comment on passe de la bonne conscience à un impact qui va être positif, non pas seulement à son échelle, à l'échelle de sa famille ou à l'échelle de ses valeurs, mais où ça va être quantifiable et objectivable.
Et j'aimerais bien qu'on revienne sur cette idée de crédit moral que j'aime bien, parce que chaque fois... Moi, je vis à Lisbonne, donc autant te dire que je prends l'avion, parce que je viens à Paris, tu vois, là, on est à Paris, donc voilà. Et les gens me disent, oui, mais en même temps, tu manges pas vraiment de viande, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Je fais, oui, mais ça marche pas, en fait. Cette histoire de crédit moral, en fait, tu peux te rassurer en te le disant, mais la réalité, c'est sûr que je suis pas le pire des pires, mais bon...
Il y a toujours pire, il y a toujours mieux.
mais en tout cas, le crédit social, ça marche pas des masses. Est-ce que tu peux revenir sur ce concept?
Ouais, en fait, le crédit moral, c'est une bonne action, permet de justifier des actions qui sont moins éthiques ou moins éco-responsables. Par exemple, on va trier ses déchets toute l'année, ce qui va permettre de justifier le fait de prendre l'avion plusieurs fois par an. On va manger très peu de viande toute l'année, ce qui va permettre de justifier le fait de consommer du Coca, du Nutella ou d'aller à McDo tous les week-ends. Il y avait un article de presse qui était paru il y a quelques années à ce sujet et le titre hyper provocateur mais très juste était « Se taper des rails de Coke la semaine et manger bio le week-end ». Non, manger bio la semaine et se taper des rails de Coke le week-end. Sinon, on est hyper déstabilisé. Et
voilà, on est
boulot.
Trader.
Ouais, et voilà. Mais en fait, c'est vraiment ça. C'est de se dire comment, dans cette éco-responsabilité un petit peu à la carte, on va focaliser nos combats sur certains éléments pour pouvoir justifier des pratiques que l'on sait pas forcément en cohérence avec nos valeurs éthiques, mais également avec les enjeux de la société. Mais... dans le bouquin, moi, l'objectif, c'est pas du tout de blâmer hein, le consommateur, l'usager ou le citoyen, parce que chaque individu est pétri dans ses contradictions et c'est ce qui fait le charme de l'humain. Et puis en plus, et encore une fois, on s'inscrit dans une société, dans un système qui met de nouveaux mots ou de nouvelles expériences sur les mêmes manières que l'on avait de faire avant. Donc par rapport à des pratiques que l'on aime bien faire, eh ben, on va accepter de renoncer à certaines, de se détourner ou d'en réinventer d'autres. Mais par contre, on va chercher des justifications de bonne conscience pour pouvoir continuer à consommer ou à faire certaines choses qui deviennent presque de mauvais ton et qui peuvent être soumis au jugement du collectif. Et ça, c'est très variable en fonction du groupe social et du style de vie des individus.
Je vais donner un exemple, mais je ne sais pas s'il est juste, donc tu vas pouvoir me dire ou pas. En termes de changement sociétal versus un changement d'usage versus un changement profond. Un changement d'usage, c'est en particulier dans les grandes villes, mais on est à Paris, donc je vais parler de Paris, où les gens maintenant se déplacent de plus en plus en vélo, principalement électrique, parce que voilà, c'est plus éco-responsable, il y a des pistes de vélo partout, donc c'est pratique et c'est facile. Mais en fait, la réalité du changement qu'il faudrait faire et qu'on a vu un petit peu avec le Covid, c'est arrêter de demander aux gens de se déplacer pour leur travail, quand c'est possible évidemment. beaucoup de personnes pour qui c'est pas possible. Parce qu'en réalité, c'est d'abord, ça te fait construire des bureaux, donc c'est un problème. Parce que c'est des problèmes d'habitation. Mais aussi, en fait, ça implique que les gens doivent acheter un vélo, une batterie, etc., etc. Ou, pour ceux qui n'ont pas changé, continuer à aller en voiture, en moto, en scooter, ou je ne sais quoi. Ou en métro, évidemment. Et en fait, c'est ça que tu pointes, c'est-à-dire l'idée, c'est de se dire, en fait, il faudra un changement social profond plutôt qu'un changement d'usage.
Je dirais pas forcément dans ces mots, mais là, je réfléchis en même temps que tu me formules. Ah si, donc je vais essayer de répondre à un truc à peu près intelligent. L'idée, c'est plus de se dire que si on nous prend la main, pour que rien ne change, mais en mettant des solutions de substitution, en définitive, ce qui paraît être un progrès au premier abord n'est pas forcément de manière systémique. Et ça induit aussi des enjeux en termes de fracture sociale, parce qu'il y a ceux qui ont les moyens d'acheter un vélo électrique et qui, par leur lieu de vie, et la distance travail-boulot peuvent le faire, et puis d'autres qui sont en zone périurbaine et qui, quoi qu'il arrive, ne peuvent pas et en plus ont des problèmes en termes de prix de l'essence et d'augmentation des modes de vie. Et après, par rapport au logement et à la réorganisation des activités journalières, ça c'est encore une autre question, en se disant, bon bah, à moyen ou à long terme, si on essaye d'inscrire nos sociétés dans des modèles soutenable et résilient, est-ce qu'on ne devrait pas repenser la notion de logement et revenir dans des conceptions un petit peu plus anciennes, mais pas si anciennes que ça, qui étaient déjà à l'œuvre dans les années 50-60 en France, où au final, l'unité d'habitation, l'unité de logement, était le cœur des interactions sociales. On y vivait, on y mangeait, on y travaillait, on faisait société dans ces logements-là, et au final, les déplacements et les interactions avec l'extérieur se pensaient de manière différente. On l'a vu un petit peu avec le Covid, on pouvait avoir une continuité de nos interactions sociales à la fois par rapport au digital, mais également par rapport à la solidarité de proximité ou quoi que ce soit. Et effectivement, si on pense le logement comme une unité de production et d'habitation, ça amène des bouleversements en termes de morphologie urbaine, d'aménité de proximité, etc. Et là, on a de plus en plus de grandes entreprises qui sont en train de repenser le rapport au télétravail, notamment au travail hybride. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'investissement et en termes de conception des espaces? Mais c'est tout l'enjeu et toute la difficulté autour de la transition qui est la nôtre. C'est que c'est un enjeu qui est systémique et de se dire, bon, bah, par rapport à un chantier qui est colossal, quelles sont les bonnes solutions à prendre et à quoi ressembleront nos modes de vie dans quelques années ou dans quelques décennies?
D'ailleurs, il y a un historien dont je ne me souviens pas le nom, malheureusement.
Oh.
J'avoue, j'ai lu l'article, mais je ne sais plus le nom, qui dit qu'il n'y a pas de transition, qu'il n'y a que des transformations. La transition, ça n'existe pas. Mais en fait, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, l'idée, ça serait de se dire que avec le capitalisme est arrivé l'individualisme, et que, et t'as raison finalement,
l'individualisme... Merci grand prince. Merci, t'as raison finalement.
Non, mais et t'as raison de dire, en fait, c'est des modèles qui sont assez récents aujourd'hui, le principe de la famille nucléaire, le fait de devoir tous avoir un frigo, une machine à laver, deux bagnoles, etc. C'est un modèle qui est, voire même une voiture, c'est des modèles qui sont très récents. Mais en réalité, alors déjà c'est pas forcément super parce qu'il y a, avec l'individualisme arrive la solitude, mais aussi en fait en réalité pas tout le monde n'a besoin d'une machine à laver en permanence, parce que finalement une machine à laver tu l'utilises peut-être, allez, pour les grandes familles, peut-être 1-3 heures par jour, mais certainement pas toute la journée, c'est sûr que non. Et en fait, on pourrait partager un certain nombre de choses, mais ça implique de revenir à des modèles de vie qui ne nous rendraient pas forcément plus malheureux, mais qui sont pré-années 50 finalement.
Pré-années 50 ou...
Et qui représentent l'intégralité de l'humanité. Hein. Enfin,
exactement. Pré-années 50 ou qui sont dans d'autres aires culturelles, à d'autres époques, ou qui existent aussi dans des modes de vie plus alternatifs ou sur les modèles de l'expérimentation. Par exemple, il y a une dizaine d'années, dans ma thèse, j'avais travaillé sur des expérimentations de logements sociaux mutualisés en France et en Suisse, où effectivement, ils essayaient de réfléchir non seulement à l'échelle du logement, mais donc de la résidence, mais également du quartier ou de la ville, comment on arrivait à être beaucoup plus efficient par rapport au mètre carré, par rapport aux aménités et par rapport aux besoins à la fois individuels comme collectifs. Donc il y a des, il y a plein de réflexions à avoir, mais qui amènent un changement un petit peu plus important que celui qui est porté uniquement par l'éco-responsabilité.
Mmh. Oui, par le capitalisme responsable. Tu parles, on va y venir quand même, aux nouveaux sauvages. Tu parles des nouveaux sauvages. Est-ce que tu peux nous préciser qui sont ces nouveaux sauvages et puis qui sont ces enfants gâtés ?
Alors, déjà, le point de départ, c'est que mes recherches, que ce soit mes enquêtes de terrain ou l'analyse que je fais dans cet ouvrage, s'intéresse à 25% de la population des pays occidentaux. Donc, on est pas sur l'ensemble de la population, donc j'ai un échantillon qui est celui-ci. Les nouveaux sauvages, c'est une élite médiatico-créative qui impose une nouvelle culture légitime, celle de l'éco-responsabilité, et qui va l'imposer de manière descendante au reste de la population. Les enfants gâtés peuvent également être des nouveaux sauvages pour une partie d'entre eux, mais représentent davantage les classes moyennes, et eux, ce sont les croyants du capitalisme responsable. C'est ceux qui ont envie de se dire qu'effectivement, par les petits gestes et par la consommation, cette transition, cette transformation de société pourra avoir lieu. Ce qui est intéressant, c'est que les enfants gâtés vont être en quelque sorte des influenceurs domestiques, alors que les nouveaux sauvages vont être très visibles d'un point de vue médiatique ou dans différents secteurs d'activité, soit par leur poste, soit par les réalisations qu'ils vont pouvoir avoir. Et si je les ai appelés les nouveaux sauvages, c'est pour faire aussi, pour avoir également une réflexion méthodologique sur la place et la fonction d'un anthropologue dans une société. L'anthropologie s'est construite par la connaissance et par l'exploration de l'autre, un autre lointain, extra-occidental, où pour mieux se comprendre, on avait recours au principe du regard éloigné et on voyait des personnes qui faisaient vraiment différents de nous et on se disait bon bah on a une diversité des cultures mais on a une unité de l'homme. Mais par contre si on s'intéresse aux très proches et qu'on essaye de montrer l'extraordinaire du banal au quotidien, et ben faut avoir quelques techniques de rédaction qui permettent d'exotiser entre guillemets le quotidien. Et c'est pour ça que je les ai appelés les nouveaux sauvages, parce que au final, ils se livrent des guerres culturelles sans merci. Ils imposent avec une violence symbolique de nouvelles manières de vivre qui ne font que maintenir les différences entre les groupes sociaux dans le corps social, et que le sauvage, c'est plus l'autre, c'est bien nous-mêmes. Et comme je fais partie intégrante des nouveaux sauvages, plus vraiment des enfants gâtés à la fin de l'écriture de ce bouquin, et ben, c'était de se dire, bon ben, ok, on se regarde en face, moi je suis partie prenante du milieu que j'étudie, posons-nous des questions, et quand on a l'impression que je critique, c'est plus de l'impertinence sur la forme pour faire réagir, et la démonstration sous-jacente, on est sur un questionnement autour de la reproduction des élites et un enjeu politique autour de l'évolution de la culture légitime et de la place de la consommation dans nos sociétés.
Donc les enfants gâtés, c'est un sous-groupe des nouveaux sauvages, c'est ça, ou je me trompe ?
Alors en fait, on va dire que les enfants gâtés, c'est une première patate qui font majoritairement partie des classes supérieures et qui vont avoir des capitaux culturels différents en fonction des différentes ethnies que j'ai investiguées. Les enfants gâtés, ça va être des croyants. On va avoir une minorité d'enfants gâtés dans les nouveaux sauvages, mais la majorité des enfants gâtés va faire partie, on va dire, des classes moyennes.
D'accord. Et tu fais référence à Maffei Zoli dans le livre, mais ce que Maffei Zoli dit, c'est qu'il y aura toujours des élites culturelles, sociales, dans une société. Est-ce que c'est un problème que les élites aillent dans cette logique d'une consommation responsable plutôt que... En fait, ce que j'essaie de comprendre et de décortiquer aussi pour les personnes qui nous écoutent, mais ce que tu décris, c'est en fait le problème, c'est que ces élites sociales, donc culturelles, médiatiques, elles vont pas assez loin finalement, puisqu'elles restent pour la majorité, dans cette consommation responsable et pas dans un changement de société profond.
Alors moi, une fois de plus, avec la démarche anthropologique, c'est ni bien ni mal. Je ne dis pas ce que les gens doivent faire ou pas. Il y a toujours eu des élites et il y en aura toujours, quel que soit le nom qu'on leur donne ou les privilèges qu'elles ont en fonction des sociétés. Par contre, du moment où il y a une récupération culturelle, des enjeux de sobriété et pour le coup de consommer moins ou de faire société différemment parce qu'on est sur des populations plus précaires en situation de pauvreté. Et que cette récupération-là, elle permet une nouvelle forme de marchandisation des biens, des services et des expériences et qu'elle perpétue la désirabilité de l'hyperconsommation, certes responsable, mais c'est toujours de l'hyperconsommation. Là, je dis attention, parce que dans cet ouvrage, je ne m'intéresse pas du tout aux personnes qui vont être dans d'autres idéologies pour faire d'autres modèles de société, comme la décroissance ou autre. On est vraiment sur des individus qui mobilisent la consommation, non plus comme une fin en soi, mais comme un moyen de pouvoir accéder à d'autres bénéfices, qu'ils soient économiques, qu'ils soient de distinction ou qu'ils soient même de praticité. Le seul point de l'ouvrage, c'est de montrer cette mécanique-là où on a quelques années, où il y a quelques dizaines d'années, l'éco-responsabilité, le capitalisme responsable, on était sur des valeurs contre-culturelles qui amenaient à se détacher de l'accumulation et qu'avec cette récupération où c'est en train de, comme je le disais tout à l'heure, de devenir une nouvelle norme, ça s'institutionnalise. Au final, ça maintient le collectif dans un statu quo.
Est-ce que c'est pas... Enfin, quand je vois, donc là, au moment où on enregistre, en tout cas, il y a eu ce... il y a eu cette... je sais pas comment appeler ça... ce truc avec Mbappé, donc qui
tout le monde en parle, hein.
Bah, tout le monde... En ce moment, en tout cas, tout le monde... Enfin, oui. Ça arrive hier.
Depuis donc, deux jours.
Voilà. Donc, est-ce que la question que je me pose, c'est que... Est-ce que cette situation, ce que t'appelles, toi, les enfants gâtés, c'est pas une position intermédiaire, parce que typiquement Mbappé, qui est une personne extrêmement riche, il y est même pas encore, c'est-à-dire que il est même pas dans cette histoire de consommation responsable, c'est-à-dire qu'il est pas là. Donc ça, c'est déjà un énorme problème, et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas là, et je parle pas spécialement, je parle des personnes qui ont beaucoup d'argent, hein, parce qu'en fait, la réalité, c'est, je l'ai déjà dit, mais évidemment, plus tu as de l'argent, plus tu pollues. Donc l'idée, c'est certainement pas de mettre la pression sur les personnes qui ont des difficultés de moyens. Mais pour celles qui n'ont pas de difficultés de moyens, on voit encore à Paris très facilement des Ferrari, des Porsche, enfin des gens qui ne se posent pas vraiment la question. Bon, peut-être qu'ils trient leur poubelle, je sais pas.
Mais, certainement. Donc,
est-ce que c'est pas une position intermédiaire pour aller derrière vers un modèle qui sera plus radical?
Alors ça, je fais pas de futurologie, donc je peux pas le dire. J'espère.
T'as pas sorti ton petit jeu de tarot?
J'aime pas. Mais la prochaine fois, je l'amène. Ou mon jeu de design fiction. Ouais, je sais. Je manque à tous mes devoirs. Non, mais par contre, ce qui est intéressant avec le phénomène Mbappé, c'est qu'on a l'impression dans nos sociétés qui sont très parisiennes centrées, quand même, il faut le dire, ou grande métropole occidentale centrée, qu'au final, l'éco-responsabilité, c'est devenu une nouvelle réalité et qu'on ne peut plus faire sans et qu'en définitive, on serait vraiment des connards si on aimait encore le plastique et qu'on prenait des pratiques culturelles ou de loisirs ou même de mobilité qui seraient très énergivores. La réalité, en fait, elle est très différente. C'est que quelle que soit notre place dans la hiérarchie et dans le corps social, qu'on soit un Mbappé ou qu'on soit une personne sous contrainte de financière, psychologique, etc., ben pour plein de gens, en fait, ils s'en foutent. Parce que, et pour plein de bonnes raisons, souvent. Soit parce que leur mode de vie n'est pas confronté directement ou indirectement ou même impacté par ces changements à venir, soit parce que les urgences sont autres et ce n'est pas la priorité. Et il y a aussi ce distinguo qui est important à faire, c'est que l'éco-responsabilité va être mise sur le devant de la scène par ces fameux sauvages, cette élite médiatico-créative, mais pour toute une partie encore hyper importante de la population, ce n'est juste pas une question.
Et justement, en lien, il y a une question, pour le coup, je me pose, enfin, il y a une phrase que j'ai lue et j'ai pas bien compris, donc
dans le bouquin ?
J'en profite, je te la pose. Je me suis dit,
mais... J'espère que je n'ai pas dit de conneries.
En quoi la frugalité, ça permet de conserver le pouvoir ? J'ai pas saisi ça. Ah. En quoi la promotion de la frugalité, ça permet de conserver le pouvoir ?
Alors, la frugalité dont je parle dans l'ouvrage est une frugalité très particulière qui s'inscrit dans le mouvement FIRE et qui prône un style de vie qui doit aboutir à une retraite anticipée. Le chapitre qui traite de ça s'intéresse aux nouveaux golden boy de la sobriété qui sont des frugalistes. Les frugalistes, la frugalité d'un point de vue étymologique, c'est le fait de consommer peu et de se contenter du minimum. En période de capitalisme responsable et dans notre société, le frugaliste est un tout autre personnage qui fait le choix de vivre en dessous de ses besoins pendant les premières années ou les premières décennies de sa carrière professionnelle pour pouvoir mettre en place des stratégies d'investissement qui lui permettront d'avoir des rentes de situation à partir de 35 ans et d'arrêter de travailler. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un nouveau rentier qui réactualise le mythe du culte de la performance à l'aune des enjeux de la transition, de la transformation et de l'éco-responsabilité. Mais dans l'esprit des gens, vu qu'il va faire des compromis et qu'il va en gros se serrer la ceinture pendant un certain nombre de temps, il est perçu comme un frugaliste, alors que la réalité est totalement différente. Et phénomène encore plus intéressant, c'est que personne n'est fichu, et moi non plus, de trouver le moment où ce terme de frugaliste a été réapproprié par ce mouvement-là. Certainement un journaliste, je crois, en Allemagne, qui en a parlé la première fois, mais on n'arrive pas à savoir. Donc c'est comment un mot qui est porteur d'une image permet de construire une réalité qui est différente de l'image qu'elle renvoie.
C'est un imaginaire, en fait, projeté.
Exactement.
Hyper intéressant. Parce qu'en fait, ce que tu décris, toi, c'est que, finalement, c'est de dire que le problème, c'est que dans toutes ces logiques-là, la performance, l'optimisation et la définition du pouvoir ne bougent pas. En fait, c'est-à-dire que ça reste l'accumulation d'une certaine manière.
Exactement.
Enfin, pas vraiment, parce que quand on est dans la frugalité, t'es pas vraiment dans l'accumulation.
Ah non, mais attends, les frugalistes dont il est question, c'est des personnes qui ont des très gros revenus au départ. Donc quand on a déjà beaucoup de choses, il est plus facile de serrer la ceinture que quand t'as rien. Donc il faut quand même repositionner. On a notamment en France un frugaliste qui est assez médiatisé, qui s'appelle Victor Laura, que j'adore par ailleurs, mais qui...
Je connais pas moi, je sais pas qui c'est.
Ah bah, t'iras voir, et qui est représentatif de la figure de l'entrepreneur ou de l'homme d'affaires qui évolue en fonction de son temps. Et on est sur le culte de la performance d'Alain Ehrenberg des années 90, qui change les mots ou les images pour arriver à un même résultat, qui est celui de conserver ses privilèges et sa place dans le corps social. Et c'est ni bien ni mal. Mais par contre, il faut avoir conscience des mots et des images qui permettent de construire une réalité qui est parfois différente entre la perception et l'objectivité de la situation.
Ouais, je vois pas qui c'est, mais j'ai une autre personne en tête en particulier qui est là-dedans, c'est-à-dire qui fait du social, mais principalement pour son image à lui. Quoi. C'est très intéressant.
Je pense qu'on est encore dans autre chose, parce qu'on est sur... Il y a d'un côté des logiques de responsive watching et de distinction autour de l'éco-responsabilité, et puis t'as des individus, et encore une fois, c'est ni bien ni mal,
c'est pas un jugement,
qui, par rapport à leurs compétences, à leur milieu social, à leur objectif de vie, vont mettre en place des stratégies pour pouvoir se sentir bien et ne pas vivre moins bien. Et qu'on sorte d'une grande école et qu'on dispose d'un patrimoine familial existant important, ou alors, à l'inverse, qu'on veuille sortir de la société et vivre n'importe quoi dans des communautés alternatives. Il n'y a pas un modèle qui est mieux que l'autre. Mais par contre, en fonction de qui on est, de notre histoire et de notre culture sociale, on va faire des choix qui nous semblent les plus pertinents. Mais il faut vraiment distinguer la logique de responsive washing avec les enjeux de distinction sociale liés à la sobriété.
Et pour revenir sur cette logique de succès par la performance, il y a cette phrase que tu reprends, donc, qui n'est pas de toi, mais que j'aime beaucoup, donc je vais la citer, qui est: percevoir la sobriété comme une forme d'abondance, c'est faire le choix de la liberté. C'est dans la conclusion, je crois, de mémoire. Et c'est une... Alors, je ne sais plus de qui c'est, je suis désolé, je pourrais vérifier là, à l'instant. Mais...
Alors, je crois que ce n'est pas une citation, c'est le message qui est issu d'un bouquin d'anthropologie de Malinowski, qui s'intéresse à certaines communautés de chasseurs-cueilleurs qui ont fait d'autres choix pour percevoir l'abondance.
Très bien. Très beau. Non, mais maintenant que tu le dis, c'est ça. Tu parles aussi, parce que je pense que ça sera intéressant pour les personnes qui nous écoutent de se positionner. Quand tu parles des élites culturelles, tu parles aussi d'ethnies culturelles. Il y en a quatre, qui sont les bobos, les normcore, les boubours et les hipsters.
Yes.
Et tu parles de bulles à l'intérieur. Tu peux nous détailler un tout petit peu ces quatre catégories?
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la méthodologie de recherche que j'ai eue, c'est de faire des centaines et des centaines d'interviews pendant 10 ans auprès d'individus issus des classes moyennes et des classes supérieures des pays occidentaux, comme je te l'ai déjà dit. Et à partir de ça, une fois que tu as tout ce matériel, tu vois des récurrences, mais tu n'arrives pas forcément à faire de l'abstraction théorique, c'est-à-dire avoir des modèles de recherche qui te permettent justement de modéliser la réalité pour donner à voir des grandes tendances ou des mécanismes de formation. Une fois que tu te rends compte que tu as des logiques sociales sous-jacentes, c'est le début des emmerdes et tu te dis, bon bah, comment t'arrives à avoir une cartographie simple et juste de la réalité? Et je me suis aperçue qu'il y avait différents éléments qui rentraient en compte. La première, c'est l'ethnicisation multiple du collectif, où on a l'impression, avec les co-responsabilités et de manière trompeuse, que les classes sociales s'effacent au premier abord, au profit d'entailles verticales dans le corps social, où on va avoir de nouveaux totems de l'éco-responsabilité, que ce soit des objets, des manières de vivre, ou des valeurs qui vont structurer le collectif. Ça, c'est le premier niveau de lecture. Deuxième niveau de lecture, c'est qu'on se rend compte qu'en fonction des capitaux dont dispose ou hérite un individu, on va avoir une manière d'exprimer et de vivre, en quelque sorte, son éco-responsabilité de manière différente. Donc là, je me suis intéressée au modèle de l'habitus de Pierre Bourdieu, où il a une axiologie entre le capital social, culturel et économique, et en fonction des catégories socio-professionnelles des individus, on ne va pas avoir les mêmes capitaux et la même composition de ce capital total qui va faire qu'on va faire des choix de vie différents. Bien évidemment, les modèles de Pierre Bourdieu ont été faits à une autre époque, mais par contre, ils sont intéressants et ils font une base de réflexion et d'ordonnancement des données qui est intéressante. Donc, si on a ces entailles verticales dans le corps social, qu'on calque sur le modèle de Pierre Bourdieu, eh ben, on se rend compte d'un phénomène très très intéressant, c'est qu'on a différents styles de vie qui vont être des modes, qui vont être des stéréotypes, on peut les appeler comme on veut, qui vont structurer et décomposer en quelque sorte la culture de la socio-éco-responsabilité. J'ai fait le choix, quelque chose qui n'est pas forcément coutume dans le milieu universitaire des sociologues et des anthropologues, c'est que je me suis intéressée au néologisme et aux stéréotypes du bobo, de l'hipster, du normcore et du boubou, qui n'ont pas d'existence en tant que telle sociologique ou anthropologique, parce que pour le coup, c'est un petit peu toujours l'autre. Mais par contre, dans l'imaginaire collectif, ils permettent de catégoriser le changement et de donner du sens aux pratiques des individus. Du coup, on part de l'imaginaire pour avoir une illustration dans la vie réelle et pouvoir comprendre comment les individus justifient a posteriori leur choix d'achat, de consommation, etc. Ça, c'est des réflexions que j'avais initiées il y a 10 ans dans ma thèse, autour notamment du gentrificateur. Le bobo, c'est toujours l'autre, c'est le méchant, et ça va être une excuse pour pouvoir avoir une réflexion territoriale en termes de classe sociale un petit peu plus poussée. Donc, ma première ethnie, les bobos. Ah non, là, pour la rentrée, j'ai l'impression d'être sur le grill. Les bobos, ça va être des individus qui ont un capital économique important, mais pas non plus foufou, mais ils vont avoir un capital culturel hyper important. Ça va être ceux qui vont être le plus visibles dans les médias et dans la société, et on peut même dire que c'est ceux qui vont être le plus cohérent en termes de pratique et de représentation. On part du principe en anthropologie que tous les individus sont des menteurs de bonne foi. Moi, la première. Toi aussi, cher ami.
Moi, 100%. Voilà. J'essaye d'être honnête, mais je...
Il y a toujours un écart entre ce que l'on dit, ce que l'on pense faire et ce qu'on fait réellement. Donc, autour de l'éco-responsabilité, l'ethnie bobo, ça va être les plus cohérents. Ensuite, on a l'ethnie normcore qui, elle, va avoir un capital économique similaire, voire un petit peu plus important que celle des bobos. Un capital culturel peut-être un petit peu intermédiaire. Et eux, ça va être l'éloge de la normalité comme signe ultime de différenciation. Et pourquoi ils sont intéressants? C'est parce qu'ils mettent le doigt sur les petites choses, sur les codes et les signes symboliques qui structurent la culture de la socio-éco-responsabilité et comment mettre un t-shirt blanc ou noir basique et un jean en apparence simple, construit une esthétique très spécifique qui nécessite l'apprentissage et la compréhension de codes qui s'inscrit dans des logiques de domination socioculturelle hyper spécifiques et qu'au final, cette indifférenciation de la norme devient l'ultime signe de prestige. Ça, on va être sur ma cartographie, sur tout ce qui va être en haut à gauche. Comme ça, ceux qui ont envie d'aller voir sur Bourdieu, voilà, ils auront quelques éléments.
Et puis dans le livre,
éléments.
Il y a des schémas.
Ah oui, bah, bien évidemment. Et du coup, maintenant, si on part de l'autre côté, on a les boubours et les hipsters. Là, on va être sur des publics qui ont un capital économique plus important que les bobos et les normes corps, mais par contre un capital culturel moins important. Les boubours, c'est un néologisme qui nous vient de Nicolas Chemla, qui avait flairé l'avènement des métrosexuels, que j'adore, je vous conseille à tous le livre « Anthropologie du boubour ». Et lui s'intéresse un petit peu aux frères ennemis du bobo, ou comment, face à une bien-pensance perçue comme excessive, pour certains, ils vont prendre le contre-pied et ils vont s'inscrire dans un mode de vie volontairement ostentatoire par rapport au nouveau carcan de l'éco-responsabilité. Donc là, ça va être peut-être que Mbappé,
peut-être
justement,
Mbappé,
est
boubour.
Ça va être avoir
malgré
des moyens,
lui, quoi.
Exactement, avoir des moyens de mobilité hyper énergivores et l'assumer. Ça va être viandard, alors que pour plein de raisons de distinction ou d'empreinte carbone, on dit que c'est pas ouf, etc. etc. On va avoir Emmanuel Todd qui trouve que quand même l'émancipation féminine, c'est pas hyper top pour la société, etc. etc. C'est un petit peu des conservateurs qui vont être bousculés par rapport aux évolutions progressistes de la société, mais ils sont intéressants parce qu'ils permettent de questionner la logique et la politique du bien en disant attention, peut-être que c'est pas si simple et qu'il ne faut pas mettre sous le tapis ou balancer l'eau du bain, le bébé avec l'eau du bain. Et enfin, on a les hipsters,
les fameux hipsters
qui eux ont un capital économique hyper important, un capital culturel qui est pas oufissime et qui eux mobilise l'éco-responsabilité comme un signe de distinction sociale et de prestige. C'est un petit peu ce qu'on abordait précédemment autour du responsive washing, ou alors de comment on va capter l'image autour du mot frugalisme pour amener une modernisation de la rente de situation. Ils ont aussi comme point commun d'amener une marchandisation dans de certains services ou de certaines manières de faire qui n'existaient pas auparavant. On va aider via des applis mobiles à être plus solidaire ou plus sympa. En gros, c'est comment on trouve de nouvelles sources de profit par rapport à ces enjeux de consommer moins ou d'éco-responsabilité. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ces ethnies culturelles, elles vont être portées et visibilisées par ces nouveaux sauvages, mais par contre, de manière descendante, elles vont infuser le reste du corps social et ça va être interprété de manière différente en fonction des ethnies et en fonction de la position des individus, c'est-à-dire en fonction des capitaux totaux qu'ils vont avoir, plus ou moins de capital économique et plus ou moins de capital culturel, ce qui va faire et qui va amener à des choix différents.
Et alors, de ce que je comprends, les bobos sont ceux qui influencent le plus la sphère médiatique, puisque c'est ceux qui ont le plus de capital culturel, mais aussi qui sont dans les médias. Ça peut être le cas de Vlan, ça peut être le cas de plein de
et des enfants gâtés.
De manière générale. La question que je me pose derrière, c'est parce que ce que tu as dit, c'est que toi, tu as fait une analyse de 25% de la population.
Oui.
Donc, qui sont les personnes les plus favorisées, finalement. Alors, favorisées à large, hein, parce que, évidemment, les populations riches, c'est moins large que 25%.
Bien sûr.
Ils sont où, les 75% autres, finalement?
Alors, les 75% autres, ils sont dans le reste de ces bulles culturelles. Comme je te le disais précédemment, on a faussement l'impression que les logiques de classe sociale s'effacent. Donc, en fait, ça va s'infuser de manière différente. Je prends un exemple tout con. Si on est dans l'ethnie normcore, par exemple, autour de la micro-aventure ou du camping, je dis n'importe quoi, on va avoir des classes populaires hein, ou des classes moyennes inférieures qui ont toujours pratiqué le camping ou des excursions à proximité de chez soi pour des logiques
financières.
Et du coup, ils vont être traités de beaufs par le reste de la société. Et en période d'éco-responsabilité, cette pratique va être socialement valorisée, mais va être réinventée en termes de glamping ou de micro-aventure qui va être beaucoup plus sexy et qui va s'inscrire dans une logique de distinction sociale. Donc en fait, tout l'enjeu autour de ces ethnies culturelles, c'est de regarder aux deux extrémités du corps social comment une même pratique ou un même phénomène s'exprime de manière différente.
Donc en fait, d'un côté, tu peux être beauf ou extrêmement pointu en ayant la même pratique.
Exactement. Et derrière, c'est vraiment les notions de distinction sociale pour le coup.
Et ce que tu disais des hipsters, c'est des personnes qui finalement vont... C'est quasiment du washing ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent ces nouveaux sujets, enfin la responsabilité at large, éco-sociaux responsabilité, pour faire du business.
Ouais, exactement. Et mais les autres le font aussi. Sauf que les autres, ils vont le faire plus dans une logique de développement personnel, de distinction sociale ou de ne pas vouloir perdre sa place dans la société. Et c'est un phénomène qui est normal. À chaque époque, à chaque société, les élites doivent s'inscrire dans l'air du temps et capter les préoccupations de la population pour pouvoir les réintégrer, les absorber en quelque sorte au sein de leur culture qui est la culture légitime, donc ce qui est bon à penser. Et si leur préoccupation d'hyperconsommation du siècle dernier n'a plus du tout le vent en poupe et qu'on est sur des enjeux de sobriété pour différentes raisons, bah eux aussi, ils doivent l'intégrer. Et là, c'est ni bien ni mal, hein. C'est un mécanisme qui est reproductible à l'infini en fonction des sociétés, des périodes, des contextes, etc.
Et on sait qu'il y a un recoupement, évidemment, entre le féminisme et l'écologie. Est-ce que tu as vu une différenciation entre hommes et femmes sur ce sujet?
Alors, je fais toujours attention à ce que je dis, parce que je suis sur du qualitatif, même si c'est des gros quali, et comme je ne l'ai pas traité en tant que tel dans mon bouquin, je vais faire attention à que ce ne soit pas une perception ou une vue de l'esprit. J'ai quand même l'impression qu'on va avoir des boubours et des hipsters qui vont être plutôt majoritairement masculins, et des bobos qui vont être peut-être plus féminin. Mais encore une fois, est-ce que c'est des effets de panel ou c'est des effets d'interprétation
a posteriori?
Voilà.
C'est un sujet intéressant aussi, parce que c'est vrai que on l'a déjà abordé, hein. Enfin, on en a un tout petit peu parlé. Je sais plus à quel moment on faisait référence au féminisme, ou en tout cas au fait que les femmes seraient bien qu'elles restent chez elles, en tout cas. mais ça va dans le, en fait c'est, et on parle d'écoféminisme, enfin voilà, il y a vraiment un lien entre les deux, on le sait, et parce que le capitalisme, etc. Donc c'est pour ça que je posais la question, mais du coup je trouvais ça intéressant.
Après, juste un élément de réponse. En fait, je fais hyper attention à ce que je réponds sur ce sujet-là, parce que pour les différentes enquêtes anthropologiques qui m'ont permis de réaliser ce bouquin-là, généralement, on va interroger autant d'hommes, autant de femmes. Donc après, peut-être que par ma méthodologie, il y a cette dimension genrée ou non des différentes ethnies culturelles qui apparaît peut-être de manière moins flagrante que si j'avais utilisé un autre protocole de recherche.
Tu parles aussi des technologies et des gens qui croient que la technologie va tout sauver. Tu parles aussi de la pensée magique autour de l'énergie. C'est quoi cette pensée magique?
Alors, la pensée magique, d'un point de vue anthropologique, c'est quand on va mettre un pansement sur une réalité qu'on ne parvient pas à expliquer ou qui est trop dure à accepter pour nous. Et ça va permettre de réduire les angoisses d'un individu, d'un groupe ou d'une société. Donc, la pensée magique, c'est ça. Aujourd'hui, pour ceux qui s'inscrivent dans une pensée technosolutionniste, on est face à une pensée magique de l'énergie, où l'espoir de trouver de nouvelles sources ou de nouvelles formes d'énergie qui permettent d'être dans une logique de découplage est plus forte que la réalité de l'état, de l'urgence socio-éco-environnementale et des modes de vie. Donc la pensée magique de l'énergie, c'est de se dire on peut continuer à faire presque comme avant, parce que de toute façon, je fais confiance en la technologie, on va trouver une solution pour avoir une technologie ou une énergie abondante, propre et toujours à moindre coût.
Et pour rappel, parce que je le fais quand même, même si on trouvait ce truc, ce qui est possible, hein, pourquoi pas, on continuerait à détruire les animaux. En fait, on continuerait à consommer quand on consomme. Donc, en fait, on détruirait notre écosystème. C'est pour ça que je parle de crise du vivant et pas juste de la crise écologique. Parce qu'effectivement, la problématique, c'est pas juste... Alors, c'est aussi un problème hein, de trouver une énergie propre, mais c'est pas que ça. C'est aussi ça, le sujet.
Et c'est tout l'enjeu de se dire, de penser de manière systémique et de ce qui peut paraître être une avancée ou un progrès par rapport à la manière que l'on a de regarder cette solution, ne l'est pas forcément de manière systémique.
Et en fait, ce que toi tu décris, et je trouve ça intéressant dans ta conclusion, c'est que finalement, de penser que le capitalisme est le seul modèle et qu'on n'en a pas d'autres, c'est aussi une croyance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une vue de l'esprit. En réalité, il n'y a pas... D'ailleurs, le communisme, parce que souvent on oppose, est aussi hyper productiviste. Donc, le communisme, c'est certainement pas la réponse. Mais ce que toi, tu décris, c'est que finalement, il y a d'autres modèles.
Bah oui, parce qu'en fait, à chaque époque, à chaque société, les individus ont des croyances, ont des mythes qui permettent d'organiser le réel et donner un sens à leurs actions quotidiennes et de croire à des entités réelles comme l'État, la politique, la religion, les entreprises, etc. Avec le capitalisme responsable, qui semble tout réinventer pour que rien ne change vraiment, et ben c'est super dur de se dire, ben en fait, on peut imaginer d'autres voies, d'autres futurs possibles, ou d'autres modèles de société pour pouvoir faire différemment. On met la population dans une sorte de tunnel où en fait, remettre en cause le capitalisme responsable, on n'y pense juste pas, en fait. Alors qu'en définitive, c'est un modèle parmi tant d'autres. Et un des grandes problématiques autour du capitalisme responsable, c'est qu'il est opposé à la décroissance, qui, pour le coup, n'est pas du tout sexy et ne fait pas rêver les gens parce que c'est perçu comme un retour en arrière. Et en fait, il n'y a aucune autre voie possible qui serait certainement... une hybridation des deux, ou même l'hybridation avec un autre modèle, et ben là, on est face à une panne des imaginaires.
Mais en fait, la voie de sortie, enfin, j'ai l'impression, c'est la phrase que j'ai citée tout à l'heure, c'est-à-dire à partir du moment où on peut... Parce que je crois pas qu'un organisme vivant, quel qu'il soit, ait envie de décroître, que ce soit les humains, les arbres...
Et c'est humain, c'est la logique de survie.
Non, mais voilà, de manière générale, pour toutes les espèces, mais... En fait, la problématique, elle est dans la croissance purement financière. Et en fait, cette phrase qui était « percevoir la sobriété comme une forme d'abondance », c'est peut-être là qu'est la solution. C'est-à-dire à partir du moment où tu considères autrement l'abondance et où tu considères autrement le fait de croître, parce que la problématique de la croissance, c'est ce qu'on calcule. C'est les indicateurs.
Et c'est les sociétés thermo-industrielles.
Exactement. Donc, si tu changes les indicateurs, finalement, tu peux toujours être dans une forme de croissance. Si la croissance, c'est de, prendre soin de la nature, du coup, on peut être dans la croissance. C'est pas un problème.
Ah, mais totalement. Et effectivement, il y a à questionner ce paradigme de l'abondance, mais il y a aussi à percevoir la contrainte dans nos modes de vie. Parce que l'anthropologie, son job, c'est d'étudier les contraintes. Parce qu'à chaque fois qu'on a une règle sociale, une manière de faire, au final, c'est des contraintes qui sont institutionnalisées et qui ne sont plus perçues en tant que telles parce que c'est devenu des obligations sociales. Avec la société d'hyperconsommation et notamment le XXe siècle, la contrainte en termes de privation, de limitation ou de difficulté au quotidien a été réduite au maximum. Et là, par rapport aux enjeux de notre époque, la contrainte est omniprésente. Et le capitalisme responsable, c'est une tentative, peut-être vaine, je ne le sais pas, de se dire non, mais c'est bon, nos modes de vie ne vont pas réintégrer de nouvelles contraintes. Mmh. Et on peut parler de nouvelles sociétés d'abondance, on peut parler de nouvelles manières de faire société autour de ces contraintes. Parce que si on fait société autour de ces contraintes, elles n'en seront plus et ça va induire de nouveaux modes de vie. Ce qui veut dire, c'est qu'on est aussi sur une crise des valeurs en se disant, bon, bah, si on n'a plus de fric et qu'on ne mange plus de viande, ou à l'inverse, si on ne mange plus de viande parce que c'est mauvais pour la planète ou c'est mauvais pour les animaux, on a une pratique qui est similaire, qui fait évoluer de la même manière les manières de table. Mais par contre, avec un imaginaire et une politisation de l'écologie, on a une fracture sociale qui empêche de percevoir les changements et l'intégration de nouvelles contraintes. Donc on est sur une crise du vivant, mais on est aussi sur une crise anthropologique et une crise des valeurs.
Hyper clair. Non mais si, c'est hyper clair. Mais en fait, c'est ça veut dire qu'on est dans une... Enfin, on est... Bah, moi, j'ai l'impression, hein, mais peut-être... et tout cela dit, t'en parles, donc peut-être que tu vas me mettre dans cette case aussi. Mais on est dans une forme de crise de civilisation, au final. C'est une crise de modèle.
Alors, crise de modèle où on est à l'aune d'un changement de paradigme. Et un changement de paradigme, ça ne peut pas se faire en achetant une paille en bambou et en ayant une voiture électrique. Sinon, ce serait trop cool. Et peut-être que c'est ce qui va se passer. Et là, j'aurais été juste une mauvaise langue. mais par contre, ça nécessite effectivement de penser à un projet commun un petit peu différent.
Sachant qu'il y a aussi une illusion écologique, on n'en a pas parlé, mais tu parlais justement des brosses à dents en bambou, qui en fait, ça marche pas très bien.
Bah non, parce que ce qui est hyper intéressant avec l'éco-responsabilité par rapport à la manière dont je l'ai étudié, c'est qu'au final, on va amener une nouvelle désirabilité de la consommation qui était un petit peu en bout de souffle, et on va même conduire les individus à être dans une nouvelle phase d'équipement. Où on se dit, c'est pas bien de consommer, font déconsommer, mais par contre, on a des produits estampillés écologiques qui nous permettent de poursuivre un petit peu nos modes de vie. Donc, on va avoir des individus qui ont une brosse à dents en plastique, qui se disent, rien à foutre, je la jette, j'achète une brosse à dents en bambou. Sauf que la brosse à dents en bambou, le bambou, la plupart du temps, provient de l'autre bout du monde, donc il y a une empreinte carbone qui est un petit peu dégueulasse. Donc, est-ce qu'il faut garder sa brosse à dents en plastique un petit peu plus longtemps, ou avoir un déchet plastique supplémentaire et au final avoir un produit qui nous renvoie les signes externes de la responsabilité alors qu'en pratique il ne l'est pas et il amène à surconsommer une nouvelle fois. Pareil avec la voiture électrique, c'est cool. T'achètes une voiture électrique, t'es content. Par contre, tu te rends pas forcément compte que ta voiture thermique est toujours en état de marche. Elle part en Afrique ou ailleurs et elle va faire augmenter le parc mondial des bagnoles. Et qu'en plus, ta voiture électrique, elle a nécessité quand même des métaux rares pour pouvoir la produire. Qu'en fonction des modèles, la batterie n'est pas forcément recyclable. Et qu'en plus, comme ça coûte plus cher, tu vas prendre beaucoup plus ta voiture que tu ne le faisais avant. Et en plus, il y a je ne sais plus combien de milliers de kilomètres nécessaires pour pouvoir avoir une empreinte carbone qui est inférieure avec ta voiture électrique.
Voilà. Très clair. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux et ouvrir, enfin ouvrir et où claquer la porte. Tu fais l'un ou l'autre ou les deux.
Alors moi j'aimerais ouvrir la porte aux optimistes de la transition et aux technosolutionnistes qui ont plein d'idées. Mais qui n'imaginent pas forcément ou qui ne prennent pas assez en considération l'impact des valeurs et l'impact de l'anthropologie dans cette transition. Donc, pour qu'on discute et qu'on se dise, vous, peut-être, vous êtes un petit peu trop optimiste, moi, je suis peut-être un petit peu trop une emmerdeuse, mais comment on construit une voie intermédiaire? Et par contre, je fermerai la porte à ceux qui sont sûrs d'être dans le camp du bien. Parce que l'éco-responsabilité ne fait pas que des gentils, et amène à l'imposition de nouvelles mécaniques socioculturelles qui peuvent être pires à moyen ou à long terme, à la fois pour les gens comme pour le vivant.
Parfait. Merci beaucoup, Fanny.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt !